Bonjour à toutes et à tous. Voici la cinquième méditation sur les sacrements aujourd'hui envoyés dans le monde avec le sacrement du mariage et celui de l'ordre. Les sacrements sont une bonne nouvelle pour ceux qui les reçoivent, un don de Dieu pour leur vie. Mais ils sont aussi un don pour la vie du monde. Quand on reçoit un sacrement, c'est à la fois pour sa vie et pour la vie des autres, pour la vie du monde. Cela est vrai de tout sacrement, mais cela est particulièrement visible dans le sacrement du mariage et dans celui de l'ordre. Si quelqu'un se marie, c'est pour son bonheur, pour sa vie, et bien sûr pour le bonheur et la vie de son conjoint, pour le bonheur et la vie des enfants qui pourront naître, et pour la joie de tous. D'où le vin des noces, vin qui marque la fête, vin qui fut surabondant à Cana, le premier signe de Jésus, présent à ses noces, à ce mariage. Et si quelqu'un est ordonné diacre ou prêtre ou évêque, c'est bien sûr pour lui une manière de répondre à l'appel de Dieu. Mais cet appel, aussi personnel et intime soit-il, est pour la vie du monde. Être ordonné, c'est être envoyé pour annoncer l'Évangile, pour servir et sanctifier le monde par le don du Seigneur, par les dons du Seigneur. Oui, les sacrements du mariage et de l'ordre disent, chacun à sa manière, que les sacrements sont pour la vie du monde, qu'ils sont au service de la vie que Dieu veut communiquer en ce monde. Le mariage, tout d'abord. Le mariage est l'un des sept sacrements, à la fois un signe et un instrument de la grâce de Dieu dans la vie chrétienne. Pour l'Église catholique, tout mariage valide entre deux baptisés, entre deux chrétiens, est un sacrement, un don de Dieu qui signifie et actualise l'union entre le Christ et l'Église, l'union entre Dieu et l'humanité. Mais le mariage, avant d'être un sacrement, est une belle réalité humaine, inscrite profondément dans les diverses cultures et sociétés. Nous y reviendrons. Quelques mots tout d'abord sur l'histoire de la célébration de ce sacrement, très brièvement. Au départ, dans la première antiquité, le mariage entre deux époux chrétiens se célèbre simplement selon la manière habituelle du pays, de la culture où se trouvent les époux. Puis, progressivement, dès l'Antiquité, se mettent en place divers rites chrétiens propres au mariage. Prière à l'Église, bénédiction par le prêtre, et bien sûr, l'écoute de la parole de Dieu. Progressivement, l'Église a organisé la célébration du mariage et en même temps elle a précisé des règles pour qu'un mariage entre deux baptisés, entre deux catholiques, soit valide. Aujourd'hui, vous le savez, sauf dispense, cela peut arriver, ou impossibilité, le mariage catholique a lieu dans une église au cours d'une célébration publique. Le prêtre ou le diacre reçoit le consentement mutuel des deux fiancés et appelle la bénédiction de Dieu sur les époux. Une petite parenthèse. En France, la loi de l'État exige qu'un mariage civil à la mairie soit célébré avant tout mariage religieux. Et bien sûr, cela est appliqué sans problème par l'Église catholique. Mais cette règle est assez typiquement française. Elle n'existe pas dans la plupart des pays du monde. Et puis, vous le savez, le mariage est une grande réalité, mais d'une certaine manière, il a besoin d'être préparé. Dans son attention aux fiancés, et pour contribuer à la réussite du mariage, les paroisses organisent une préparation au mariage, et c'est une bonne chose. Cela permet aux futurs époux de mieux envisager la vie qu'ils veulent construire, le foyer qu'ils veulent instituer. Cela leur permet de comprendre, de mieux comprendre cet engagement et ce qu'il signifie. Quatre traits de cet engagement du mariage chrétien. Alors, il y en aurait sans doute d'autres, mais ce sont des traits que l'on indique souvent, parce qu'ils sont importants. Liberté, fidélité, indissolubilité, accueil des enfants, pour l'homme et pour la femme qui décide de se marier. Tout d'abord, la liberté. On ne peut s'engager dans le mariage que librement. Si c'est sous la violence ou sous une pression qui empêche la liberté, il n'y a pas tout simplement mariage. Alors, il y a des cas un peu, comment dirais-je, qui n'existent plus aujourd'hui dans nos sociétés. Mais le prêtre ne peut pas recevoir le consentement des fiancés si l'épouse, disons si la future épouse, si la fiancée a été enlevée, si elle a été victime d'un rapt. Voilà. Alors dans nos sociétés, ça va sans dire, ça n'existe plus. Mais ça dit quelque chose, et ça c'est, ça remonte à très loin, mais ça dit quelque chose de l'importance de cette liberté. L'engagement mutuel des époux est un engagement de tout l'être et l'engagement d'une liberté. Premier enseignement, je crois, important sur cet engagement du mariage. La fidélité. Les époux s'engagent dans un chemin de respect mutuel, de soutien mutuel, et qui s'exprime notamment dans la fidélité l'un à l'autre. C'est un appel, ce peut être un combat, mais c'est bien cela la ligne, c'est bien cela l'élan. D'une certaine manière, Dieu seul est pleinement fidèle. Seul le oui de Dieu, exprimé dans le Christ, est un oui sans faille, un oui qui l'engage pleinement, un don pour toujours. Eh bien, Dieu propose aux êtres humains dans le mariage d'entrer dans cette sorte de oui, cette sorte d'engagement plein et entier. Un engagement qui désire et veut la fidélité, un engagement pour toujours, un engagement indissoluble. Aux yeux de l'Église, vous le savez, un mariage chrétien valide est indissoluble. Et même le plus souvent, un mariage entre deux non-chrétiens aux yeux de l'Église est indissoluble. Cette foi en un oui humain possible, je crois, est une bonne nouvelle dans un monde qui doute de tout, qui relativise tout engagement. Il est possible de dire oui sincèrement et de s'y engager. L'accueil des enfants. Dans le mariage, il y a la perspective de pouvoir accueillir et éduquer les enfants qui naîtront du mariage. Le but du mariage, les buts du mariage, ils sont multiples d'une certaine manière. L'un des premiers buts auxquels on pense, c'est bien sûr le bonheur des époux, leur respect mutuel, leur soutien, leur affection réciproque. Le mariage est un don pour eux. Et cela est quelque chose de beau. Mais c'est aussi un don pour les autres, et tout spécialement pour les enfants qui naîtront. Les parents peuvent donner la vie, et cela est merveilleux. Pour eux, l'œuvre de création de Dieu se poursuit à travers leur propre fécondité, quand la fécondité est possible. Une ouverture à la vie qui vient de Dieu. Ces enfants sont l'un des plus beaux fruits du mariage, quand cela est possible, et par eux, les époux coopèrent à l'action créatrice de Dieu, à l'amour même de Dieu. Et puis, il y a, et on l'oublie parfois, il y a tout ce que cela construit dans le monde. Par leur soutien et respect mutuel, par la famille qu'ils construisent, les époux disent quelque chose d'essentiel à notre monde. Le Concile Vatican II rappelait les diverses dimensions de l'apostolat des laïcs. Cet apostolat se manifeste bien sûr de bien des manières, par le travail des êtres humains, par l'attention aux réalités sociales et politiques, mais tout particulièrement par la vie familiale. C'est comme un premier espace où vivre chrétiennement dans et pour le monde, comme une petite église d'une certaine manière et qui a à témoigner de la bonne nouvelle du Christ. Le mariage, c'est à la fois une réalité humaine et chrétienne. L'Église honore et appelle à respecter la réalité du mariage, même lorsqu'il ne s'agit pas du mariage entre époux chrétiens. Car cela est beau, car cela est important, car cela est déjà un don de Dieu, quelque chose qui manifeste le don de la création. Rappelons-nous au premier chapitre de la Genèse, chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. L'homme, il s'agit de l'être humain. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Il n'est pas étonnant que le monde biblique ait pris en considération la différence entre hommes et femmes. C'est une sorte d'évidence dans toutes les cultures. Mais il ne s'agit pas simplement d'en faire le constat. Il s'agit de dire que c'est quelque chose de bon, et Dieu vit que cela était très bon, et de dire que quelque chose manifeste de l'image de Dieu dans cette différence entre homme et femme, tous deux êtres humains, appelés à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, si on prend un peu plus loin, au chapitre 2, vous vous rappelez cette image symbolique de la femme tirée du côté d'Adam. Et cette conclusion, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Quelque chose de l'unité manifestée entre l'homme et la femme dans l'union charnelle qui dit quelque chose qui vient de plus loin. Quelque chose de bon, quelque chose qui est béni par Dieu. Oui, une réalité bonne, honorée, à honorer dans chaque culture et en chaque pays. Alors on pourrait se demander pourquoi un mariage chrétien? D'une certaine manière, les réalités humaines sont belles et pourraient se suffire. Entre époux chrétiens, cette alliance prend un sens particulier. Elle garde tout ce qu'il pouvait y avoir de bon dans les diverses cultures, mais elle signifie bien plus. Elle signifie les épousailles entre Dieu et l'humanité. Elle s'enracine au plus profond, dans la fidélité du Christ, lui qui est l'époux. Cette fidélité qui permet au Christ et à l'Église d'être unis. Ce grand mystère de la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Souvenons-nous la lettre Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 32. Ce mystère est de grande portée. Il commente le verset du chapitre 2 de la Genèse que je l'ai lu il y a quelques instants. Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Et il en déduit un appel aux époux chrétiens à l'amour et au respect mutuel. Alors oui, nous pouvons rendre grâce. Bien sûr, peut-être que dans nos cœurs, il n'y a pas que l'action de grâce. Nous pouvons aussi confier à Dieu les échecs, les faiblesses, les blessures. Car dans toute vie humaine, il peut y avoir échecs, faiblesses et blessures. Bien sûr, nous pouvons demander à Dieu sa force de respect et de renouvellement pour chacun d'entre nous, pour les époux chrétiens, pour tous les époux, pour toutes les familles de la terre. Mais déjà et d'abord, nous pouvons rendre grâce, dire merci. Dis merci pour ce don de l'amour humain, pour ce don du mariage. Nous pouvons dire merci aussi à tous ceux qui nous ont précédés dans l'existence et dans la foi, ceux qui nous ont donné la vie. Nos parents, notre père, notre mère, que nous pouvons honorer, que nous sommes appelés à honorer. Nous pouvons rendre grâce aussi pour l'appel à aimer toujours davantage, à aimer de l'amour de Dieu, que nous soyons mariés ou non. Le sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre pour les diacres, les prêtres, les évêques. Le sacrement de l'ordre comporte 3 degrés, l'ordination diaconale, l'ordination presbytérale et l'ordination épiscopale. Il ne s'agit pas simplement d'une manière d'organiser l'Église, ses activités, son gouvernement, sa bonne administration. Cela sans doute est utile, comme dans tout couple humain, dans toute société humaine. Mais au plus profond, le sacrement de l'ordre dit le don de Dieu pour l'Église et pour le monde. Il manifeste quelle est l'origine de l'Église. L'Église a à se recevoir du Christ. Le Christ est la tête de l'Église. Alors la plénitude du sacrement de l'ordre, c'est l'épiscopat, vous le savez. D'une certaine manière, c'est dans l'épiscopat que se rassemblent toutes les dimensions de l'ordination, des ordinations. Même si certaines seront davantage vécues et exprimées dans la fonction des prêtres ou celle des diacres. Par l'ordination, l'évêque devient successeur des apôtres. Il est appelé à annoncer l'évangile comme eux. Il est appelé à sanctifier et gouverner le peuple chrétien comme eux. C'est à la fois une responsabilité personnelle et collégiale. Personnelle, vous le savez, dans l'Église catholique, à la tête de chaque diocèse, il y a un évêque. Non pas un groupe, un bureau, une association ayant un président, un trésorier et un secrétaire, mais un évêque. Et puis, en même temps, cet évêque n'est pas isolé. Il est en lien avec tous les évêques du monde, avec les autres évêques, avec le pape. Il forme le collège épiscopal. Autour de Pierre, il y a les autres apôtres. Pour dire les missions des évêques, on a parfois repris une trilogie de l'Ancien Testament, la trilogie prophète, prêtre et roi. Le prophète, celui qui annonce la parole de Dieu. Alors, du côté des évêques, il y a une charge d'enseignement, de prédication, d'annonce de la parole de Dieu. Cela se manifeste dans les cathédrales par la chaire de l'évêque, cette chaise d'où l'évêque peut enseigner. Alors peut-être que aujourd'hui, nos plus grands enseignants de la foi chrétienne ne sont pas nécessairement des évêques, mais c'est bien un rôle manifesté par la chaire des évêques qu'ils ont cette charge d'un enseignement au peuple chrétien et d'une annonce de la parole de Dieu au monde entier. Prêtre. Prêtre, cela peut avoir beaucoup de sens, mais d'une certaine manière, là, l'idée est celle de sanctification. La célébration des sacrements et des cultes pour que chaque chrétien puisse vivre sa vie de baptisé. Roi. Peut-être que c'est l'expression qui nous semble la plus étrange. Un rôle de gouvernement, bien sûr, mais roi, non pas à la manière des rois de ce monde, roi dans un service, comme un pasteur du peuple chrétien. Cette trilogie, on pourrait l'appliquer aussi à chaque baptisé autrement. Pour dire que chaque baptisé a annoncé la parole de Dieu, que chaque baptisé a vivre de la sainteté de Dieu, a aidé à la sanctification du monde, et puis à entrer à la fois dans un rôle actif dans ce monde et un rôle de service. Voilà pour l'évêque, le diacre et le prêtre, qui sont associés au ministère de l'évêque, le diacre, notamment par le service des plus pauvres et celui de la liturgie. Cette dimension de service est présente dans le ministère épiscopal, également dans le ministère presbytéral, mais elle est particulièrement manifeste dans celui du diacre, un service pour et dans notre monde. Le diacre, d'une certaine manière, manifeste dans l'Église l'importance du service. Le service n'est pas réservé au diacre, mais le diacre en manifeste l'importance. Le prêtre. Autour de l'évêque, il y a des prêtres, ils forment ce qu'on appelle d'un mot technique le presbytérium. Ils sont avec et autour de l'évêque chargés d'annoncer la parole de Dieu, de célébrer les sacrements, d'assurer la charge pastorale. Au service du peuple chrétien, au service de chacun dans son chemin vers Dieu, au service de la vocation à la sainteté de tout baptisé. Quelques mots sur l'appel et la vocation. La vocation, l'appel de Dieu dans une vie, comprend à la fois une dimension personnelle et non moins une dimension ecclésiale. Une dimension personnelle. Quelque chose d'un appel de Dieu qui retentit dans le cœur, sans doute à travers la prière, sans doute à travers la rencontre des autres. Un appel à servir le Christ et l'Évangile par toute sa vie. Au sein du monde et dans l'Église, mais par une réponse personnelle et un service spécifique. De plus, les prêtres dans l'Église latine, dans l'Église catholique d'Occident, sont choisis par ceux qui ont une vocation au célibat pour le royaume de Dieu. Dans l'Église d'Orient, y compris dans les églises catholiques d'Orient, l'Église, l'évêque peut ordonner prêtre des hommes mariés. Dans l'Église latine, depuis des siècles, le choix a été fait de choisir les prêtres parmi ceux qui se sont engagés à une disponibilité radicale au Christ par le célibat et dans le célibat. Disponibilité qui doit être de tout l'être, offrande de soi tout entier, pour quelqu'un qui a entendu l'appel du Christ, « Toi, suis-moi ». Bien sûr, cet engagement va se vivre à travers des combats, peut-être des moments d'hésitation, mais c'est bien parce que le prêtre est appelé à se donner tout entier qu'il est aussi celui à qui Dieu va donner la mission d'appeler chaque chrétien à se donner tout entier, chacun à sa manière, suivant sa vocation et son état de vie. Un appel ecclésial. On ne devient pas diacre, prêtre ou évêque par soi-même et pour soi-même. Bien sûr, les formes de l'appel ont pu changer au cours de l'histoire, suivant les époques. Il y a pas si longtemps, en France, c'était le roi ou le gouvernement qui nommait et choisissait les évêques. Mais, quoi qu'il en soit de la diversité des époques, c'est toujours après une consultation du peuple chrétien et sur l'appel et par les mains de l'évêque qu'est ordonné un diacre, un prêtre ou un évêque. D'une certaine manière, pour qu'une vocation soit authentifiée, et notamment une vocation au ministère que je viens de citer, il faut que l'Église appelle, vérifie, consacre et envoie. Au plus profond, il s'agit bien sûr d'un appel et d'un don de l'Esprit-Saint. Et cela est manifesté lors de l'ordination par l'imposition des mains, ce rite essentiel qui dit beaucoup, qui dit à la fois la tendresse de Dieu, mais aussi l'appel de l'Esprit-Saint pour que celui qui va être ordonné diacre, prêtre ou évêque reçoive de Dieu cette mission et cet état. On reçoit une vocation, une mission particulière en faveur des autres et pour le monde. Quelques mots encore sur la célébration. Je faisais allusion à l'imposition des mains, ce don de l'Esprit-Saint qui marque à la fois l'initiative et la force de Dieu. Dans la célébration d'ordination, il y a d'autres moments que je trouve, alors on pourrait citer et parcourir tout, je ne parcourrai que quelques éléments. La transmission de l'Évangile. Cela a lieu pour les diacres, cela a lieu aussi pour les évêques. Être ordonné, ce n'est pas être au-dessus de l'Évangile, c'est être appelé à être au service de l'Évangile. Et lors de l'ordination presbytérale, ce qui est transmis à celui qui est ordonné prêtre, c'est le calice et la patène, qui orientent tout naturellement vers l'Eucharistie. Cette Eucharistie dont je parlerai plus longuement la semaine prochaine. Oui, nous sommes ordonnés pour servir l'Évangile et les autres chrétiens dans ce monde. Et puis un moment que je trouve très fort, un moment d'une certaine manière où l'on sent que cela nous dépasse, alors sans doute ce n'est pas le seul moment dans la liturgie, c'est le moment de la litanie des saints. Toute l'Église est en prière, l'Assemblée chante. Et pendant ce moment, l'ordinant est allongé. Il est par terre. D'une certaine manière, il peut à peine murmurer. La face contre terre, on ne peut guère chanter. Il est porté par le chant des autres. Il est porté par la prière de toute l'Église et celle des saints du ciel. Et je trouve cela très beau, être porté par les autres, au moment à la fois où on s'engage et où on reçoit un don pour les autres. Nous sommes d'abord portés par la prière de toute l'Église. En conclusion, par les ministres ordonnés, l'Église apparaît comme un peuple appelé, rassemblé par le Christ sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Il ne s'agit pas d'une association, loi 1901, il ne s'agit pas d'une amicale d'anciens élèves. L'Église est orientée. Elle a un axe, elle a une tête, c'est le Christ. Et la charge des ministres du Christ sont de manifester le Christ. Cette vocation, ces vocations particulières dans l'Église n'excluent pas d'autres vocations. J'aurais pu parler des vocations religieuses, je ne le ferai pas. Mais une chose importante, c'est de parler de la vocation de chaque baptisé de manière générale. C'est l'Église tout entière, chaque baptisé, qui est au service de Dieu et au service du monde, déjà par le sacerdoce baptismal. Vous avez trois mots anciens qui disent cela, trois mots grecs, martouria, liturgia, diaconia, martouria, du côté du témoignage, c'est le mot qui a donné martyr, et de l'annonce de la parole. Bien sûr, c'est la charge des prêtres et des évêques et des diacres, mais c'est aussi la charge de tout chrétien par sa vie de baptisé, la liturgia, le culte et les sacrements. D'une certaine manière, l'Église, ce n'est pas un prêtre qui célèbre tout seul quelque part, cela peut arriver, mais le plus souvent, ce qui manifeste de la manière la plus heureuse et la plus forte ce qu'est l'Église, c'est lorsqu'il y a un rassemblement pour célébrer ensemble le culte de Dieu et recevoir sa force et son enseignement. Diaconia, service. Alors, il y a bien sûr les diacres dans l'Église. Mais les diacres ne sont pas là pour nous dispenser du service. Ils sont là pour nous appeler, chacun à notre manière, au service. Et notamment à l'attention aux plus pauvres. Oui, les ministres ordonnés, les ministères ordonnés sont au service du service de l'Église tout entière. Cette Église qui est envoyée en mission. Tous nous sommes associés au Christ, tête de l'Église, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Notre prochaine méditation, le mardi saint, sera sur l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui. Je vous souhaite une bonne suite de carême et puis bientôt l'entrée dans la semaine sainte.